Europe won. Europe won at the American election.
Europe Soir, le 18-20.
Europe won live for the American elections.
Édition spéciale élection américaine.
Et Julien Bugier.
Oui, 18h33, on est toujours ensemble jusqu'à 20h pour une édition spéciale US avec le débat des grandes voix. Guillaume Tabar ce soir autour de la table. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro, Ivan Trippenbach. Bonsoir Ivan.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique à l'Opinion. Yannick Mireur est également avec nous. Bonsoir Yannick.
Bonsoir.
Politologue et spécialiste des États-Unis. Et puis Xavier Yvon, toujours avec nous en direct de New York, correspondant permanent d'Europe 1 aux États-Unis. Xavier, cette information, donc, je le disais juste avant la pause, de dernière minute. On apprend à l'instant, c'est en breaking news sur les chaînes américaines, que Biden devrait s'exprimer ce soir.
Oui, exactement. Ça vient de tomber, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. On sait juste qu'il va parler ce soir. Il est en ce moment dans sa maison à Wilmington, dans le Delaware, où il est en train certainement de préparer son allocution. Vous savez ce qui se passe normalement dans une élection américaine normal, hein, c'est que le perdant, quand il a acquis, qu'il a perdu, appelle le vainqueur, et le vainqueur va faire une déclaration publique à la télévision. Il n'est pas du tout sûr que ce soir, quand Joe Biden va s'exprimer, Donald Trump aura appelé son concurrent pour le féliciter et concéder sa défaite. Mais il y a un signe qui ne trompe pas autour de la maison de Joe Biden,
oui.
C'est que la sécurité a été renforcée par le Secret Service, vous savez, c'est le service de protection notamment des présidents américains, et le survol de l'espace aérien de la maison de Joe Biden à Wilmington est interdit.
Bien, vous restez avec nous, Xavier Yvon, en direct, toujours de New York. Yannick Mireur, on imagine mal ce soir le président Trump, vu le contexte des derniers instants, annoncer sa défaite. Et pourtant, Joe Biden va parler.
D'autant que, à mesure que les dernières heures que nous avons vécues, et les dernières 24 heures, mais surtout les dernières heures aussi, montrent que le chemin pour Donald Trump est quand même de plus en plus étroit.
Hein. Oui.
Bon, on s'était parlé il y a quelque temps et les choses semblaient lui être favorables. En 24 heures, il y a eu quelque chose d'absolument phénoménal qui surprend les Américains eux-mêmes et même ceux qui sont dans le milieu politique sur cette remontée, comme on dit en français, de Joe Biden.
Donc, ce qui a changé le rapport de force, c'est important de le dire pour nos auditeurs, on l'évoquait tout à l'heure avec mon invité à 18h20, c'est que Donald Trump a incité ses soutiens à aller voter physiquement, alors que les soutiens démocrates de Joe Biden ont plutôt voté par anticipation, ce qui a tronqué le rapport de force dans les premières projections qui ont été données le lendemain du scrutin.
Oui, et en même temps, au moins cette prédiction-là, cette supposition-là, oui, s'est révélée parfaitement juste. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait beaucoup plus que ce qu'on pouvait même, on peut dire massivement, une tendance pro-Biden dans les votes par correspondance, c'est-à-dire les votes postés par les électeurs donc avant le jour du 3 novembre.
Ivan Trippenbach, a priori ce soir, donc, restons prudents, mais c'est plutôt bien parti pour Joe Biden, qui pourrait donc devenir le 46e président des États-Unis. Est-ce que Donald Trump, selon vous, va s'accrocher au pouvoir coûte que coûte? On sait que de nombreux recours ont été déjà lancés par ses avocats, avec une première victoire, le recomptage des voix dans le Wisconsin, même si, a priori, ça ne devrait pas changer l'équilibre des forces.
Oui, tout à fait. Tout dépend de la personnalité de Donald Trump. En réalité, il est lâché progressivement par les leaders de son propre parti. Il est très isolé.
Pas encore complètement, quand
pas
même.
Pas encore complètement, tout à fait, mais c'est en cours. Tout va se focaliser, effectivement, sur sa réaction. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a commis une erreur lors des jours précédents, c'est d'appeler à arrêter de compter les voix,
oui,
ce qui est parfaitement antidémocratique, ce qui est très surprenant, y compris aux États-Unis. Alors que maintenant, il insiste effectivement sur l'aspect judiciaire et sur la contestation des votes qu'il appelle illégaux, en fait, et donc les fraudes. Voilà, on va attendre de voir comment il réagit, mais effectivement, la victoire de Joe Biden sera consacrée quand Donald Trump aura concédé sa défaite.
C'est vrai que ça, c'est quelque chose de complètement fou. Il y a encore quelques minutes, tout à l'heure, Donald Trump, pour la première fois, a pris la parole dans la salle de presse de la Maison Blanche, avec sa porte-parole à ses côtés. C'est la première fois, Guillaume Tabar, qu'on le voyait depuis le scrutin. Et il a continué à dire que le scrutin était truqué, qu'il allait engager un certain nombre de recours pour contester l'issue du scrutin. C'est la première fois dans l'histoire américaine qu'un président élu met ainsi en cause la réalité d'un scrutin démocratique.
Oui, donc il faut bien distinguer la contestation sur des chiffres et la contestation politique, parce que la contestation sur des chiffres, d'abord, elle peut être naturelle lorsqu'un résultat peut être serré ou lorsqu'il y a des questions sur le déroulement du vote. Et là, c'est vrai que l'afflux inattendu des votes par correspondance peut poser des questions sur la modalité même du dépouillement. On se souvient bien sûr du cas l'élection de 2000 et du cas de la Floride. Mais oui. Là, c'est une opération politique qu'a menée Donald Trump. Ce qui est surprenant, c'est qu'on en soit surpris, parce que le fait qu'il conteste le résultat, c'est pas une surprise. Il l'avait
c'est
même
ce qu'il
dit
avait
par
dit depuis
anticipation.
Des mois, oui.
Bon, donc d'une certaine manière.
Mais on pensait qu'il bluffait.
Oui, mais je pense que le bluff lui a permis d'obtenir ce qu'il souhaitait, à savoir que on voit bien aujourd'hui qu'il aura du mal à contester la réalité arithmétique du scrutin. Mais je pense qu'il a déjà obtenu d'instiller dans l'esprit, notamment de ses partisans, l'idée que quoi qu'il arrive, cette élection a quelque chose de faussé. Et voilà, en ayant mis ce mot de fraude dès le début,
oui.
Pas de contestation, de fraude, cette élection qu'on veut nous voler, ben, le message est passé et je pense qu'une grande partie des Américains garderont toujours ce sentiment que cette élection leur a été volée, même si sur le plan arithmétique, il n'y aura pas de doute. Il en restera quelque chose et je pense que d'une certaine manière, ça pèsera sur le mandat de Joe Biden à son insu. Mais voilà, cette idée que dire cette élection a été volée, voilà, au moins Donald Trump aura obtenu cet impact psychologique
oui,
qu'il
oui.
espérait.
Et c'est vrai que le mur républicain, vous l'évoquiez à l'instant, Ivan Trippenbach, est en train de se fissurer. On apprend par exemple à l'instant que le républicain Mitt Romney, qui est opposant, c'est vrai, au sein du camp républicain à Donald Trump, mais il dit publiquement « Trump a tort de dire que l'élection a été truquée ». Ce sont ces déclarations qui nous parviennent à l'instant. 18h39, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre édition spéciale US.
Europe Soir, le 18-20,
spécial présidentielle américaine, et Julien Bugier.
Oui, 18h41, on est toujours ensemble dans le débat des grandes voix spéciales US, et on va retourner aux États-Unis, à New York précisément, où nous attend toujours Xavier Yvon, correspondant permanent d'Europe 1. Vous avez, Xavier, des informations sur la prise de parole qu'on attend ce soir de Joe Biden.
Oui, alors elle est prévue à 20h, heure de la côte Est, ça veut dire 2h du matin pour vous en France. C'est un journaliste qui suit la campagne
on
Biden
couché,
qui...
Hein.
Non, c'est un journaliste, moi non plus. C'est un journaliste qui suit la campagne Biden qui a donné ces informations. Alors, selon lui, Kamala Harris, donc la candidate à la vice-présidence, va s'adresser en premier et ensuite ce sera Joe Biden. Kamala Harris, qui, je vous rappelle, si tout se confirme, sera la première femme de couleur à accéder au poste de la vice-présidence des États-Unis. Voilà, ce sera très certainement depuis le Convention Center de Wilmington en Delaware, c'est la petite ville où habite Joe Biden, et peut-être comme ses prises de parole précédentes devant un public dans sa voiture, puisque vous savez qu'il organise tous ses prises de parole avec des drive-in. Je voulais juste ajouter une précision à ce qui a été dit tout à l'heure sur le plateau, sur l'histoire de la concession, de la défaite par le perdant d'une élection. En fait, ça, c'est pas une règle, elle n'est pas inscrite dans la loi ou dans la
Constitution. C'est la tradition.
Donc. C'est la tradition, mais ce qui est inscrit dans la loi, ce qui est la règle officielle, c'est que pour être élu, un candidat doit atteindre les 270 grands électeurs. Ça, une fois que ce sera fait, Joe Biden sera le président élu, que Donald Trump reconnaisse ou non sa défaite.
Bien, merci de cette précision, Xavier. Vous restez évidemment toujours branché avec nous en direct de New York. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des informations supplémentaires. Yannick Mirer, politologue et spécialiste des États-Unis, qu'est-ce que Joe Biden peut dire ce soir? Est-ce qu'il peut le dire? Je suis gagnant, je suis le nouveau président?
Il peut le dire en fonction effectivement de ce qui est peut-être attendu, des résultats qu'on pourrait avoir sur certains États. Parce que je vous rappelle juste une petite chose, c'est qu'au niveau du vote populaire, pour les États dont on connaît déjà le résultat, je pense par exemple à la Californie, le compte se poursuit. C'est-à-dire, tous les bulletins n'ont pas été épuisés.
Oui.
Donc c'est-à-dire que le vote populaire va être encore plus important. Et c'est une élection historique de ce point de vue, puisque
mobilisation
on bat des records
historique.
De mobilisation, de participation. Ce qui d'ailleurs jette un nouvel éclairage sur les conclusions un peu hâtives consistaient à dire « pauvre démocratie américaine », etc. etc.
Ouais.
Finalement, bon, il y a de la tension, il y a de la polarisation, des excès, mais en même temps, les Américains se sont mobilisés, même si c'est vrai qu'ils sont partagés, très partagés, y compris en famille, sur ce qui se passe. Mais il n'est pas exclu, et c'est bien les atouts de M. Biden, en tout le cas ce que présomption de qu'on peut lui faire par avance, c'est que son caractère, sa trajectoire, aussi son âge, au fond, et les nécessités...
Il a 77 ans.
Oui, mais bientôt 78. Je crois avant peut-être janvier, s'il est élu. Peu importe, mais les nécessités aussi exigées par les dysfonctionnements de la vie publique américaine pourraient l'amener à être un vecteur d'apaisement. Et ça, je pense que c'est quelque chose que une large majorité d'Américains attend.
Bien. Alors, sur la mobilisation, peut-être Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro, il y a un élément qui a été assez peu souligné, c'est le vote populaire et l'adhésion qu'a suscité Donald Trump. C'est vraiment la surprise. Une fois de plus, il crée la surprise, Donald Trump. Même s'il perd ce soir, 69 millions d'Américains, je crois, ont voté pour lui. C'est plus qu'Obama, lors de son élection. C'est historique.
Et c'est 4 millions de plus que ce qu'il avait recueilli lui-même lors de sa victoire en 2016. Alors certes, Joe Biden, lui, va faire quelques 12 millions de plus, enfin fait déjà 12 millions de voix de plus que Hillary Clinton, mais Donald Trump
confirme,
fait plus.
Ça confirme l'idée qui est de dire, mais on le voit bien avec les résultats qui, et puis ce duel très serré entre Trump et Biden, mais ça confirme l'idée que l'élection 2016 de Donald Trump n'a pas été une erreur de l'histoire, été un accident.
Oui, et ça veut dire que le Trumpisme existe dans la population américaine. En général, par définition, un président sortant avec l'usure du pouvoir est plutôt un peu sanctionné. On pensait beaucoup qu'il y a beaucoup d'électeurs qui allaient le quitter et qu'il n'y avait pas d'électeurs démocrates qui allaient voter pour lui. Or, cette fluidité électorale, elle existe aussi dans les deux sens. Et que c'est quasi 50% d'Américains qui votent Trump, qui ont voté Trump une fois, qui ont voté Trump une deuxième fois, et plus que la dernière fois. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans l'électorat de Trump, qu'on présente souvent comme un peu le candidat des hommes blancs, c'est précisément la seule catégorie où, semble-t-il, il est reculé, alors que son score a augmenté chez les Noirs, au sein de la communauté gay.
Un tiers des Latinos ont voté pour Donald Trump, aussi incroyable que cela puisse paraître.
Oui, alors Latinos, parce qu'il y a aussi les Cubains de Floride, qui par tradition ont toujours été plus républicains, mais c'est vrai que Donald Trump a progressé au sein de ce qu'on appelle les minorités, qu'elles soient ethniques, religieuses, etc. Ce qui montre bien qu'effectivement, on ne peut pas réduire le vote Trump à la caricature que l'on en fait, y compris chez nous en France.
Ivan Trippenbach, journaliste politique à l'Opinion. D'abord, c'est quoi le trumpisme? Et est-ce que, selon vous, il va survivre à Donald Trump?
Alors, c'est toute la question. Effectivement, le trumpisme, on peut le décrire comme une sorte de populisme conservateur qui inspire certains partis, d'ailleurs, en Europe populistes. Je pense notamment au Rassemblement National en France. On avait des élus de Marine Le Pen
et
qui
Viktor
s'inspiraient.
Orban aussi en Hongrie, qui a dit ce soir que oui, il y avait de la triche aux États-Unis en défaveur de Donald Trump.
Oui,
voilà un soutien européen.
Par exemple, et des élus RN font de même en France en relayant des fake news autour des fraudes prétendues dans les bureaux de vote américains. Donc le trumpisme, c'est un populisme assumé. Donc là, on rentre complètement en contradiction avec les stratégies adoptées en Europe d'une sorte de normalisation. Mais on retrouve exactement les mêmes fractures. Fracture territoriale, un électeur démocrate sur quatre seulement vit dans une petite ville ou une zone rurale. Fracture ethnique très propre à la société américaine. Et puis fracture liée au diplôme, au niveau de qualification. Ces fractures existent aussi en Europe. On a les mêmes. On a les mêmes dynamiques populistes qui émergent dans l'opinion, dans les enquêtes récentes sur la société française.
Oui.
Donc, on a beaucoup de leçons à tirer de la permanence du phénomène trumpiste.
Alors, vous restez avec nous, évidemment, et dans un instant, on s'interrogera sur la suite de ce scrutin. Peut-il y avoir des mouvements d'humeur, par exemple, de la part des soutiens de Donald Trump dans les jours qui viennent? 18h47, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, spécial présidentielle américaine. Et Julien Bugier.
Oui, 18h50, on est toujours avec le débat des grandes voix spéciales US et cette annonce donc qui nous est parvenue il y a quelques instants. Joe Biden va bien s'adresser à la nation américaine ce soir. Les rapports de force sont en train de lui être favorables. Il est désormais en tête avec toujours 253 grands électeurs contre 213 pour Donald Trump. Et la Pennsylvanie sera déterminant une fois que le dépouillement sera terminé. 20 grands électeurs en jeu. Si Joe Biden emporte la Pennsylvanie, Yannick Mirror, il est président des États-Unis.
Il est élu. Fin du match.
Et on le saura dans les minutes ou les heures qui viennent, normalement.
Bah, on espère, parce que le monde, et surtout les Américains aussi, espèrent la fin de ce à quoi on assistait depuis 4 ans, même si ça continuera avec des spasmes plus ou moins forts. D'une part, l'interregnum entre novembre et janvier, qui est une bizarrerie qui reste depuis 2 siècles aux États-Unis, et qui sera sans doute un moment de confusion. Peut-être donc aussi de chaos pour ce qui est des recours et des litiges. Je ne suis pas très certain au fond que ça aille très loin et que ça puisse changer quoi que ce soit à partir du moment où la Pennsylvanie, les résultats sont clairs, le dépouillement est clair. Il n'y a pas de machine à faire.
Xavier Yvon, toujours en direct avec nous, correspondant permanent d'Europe 1 à New York. Xavier, question, faut-il craindre dans les jours qui viennent, si les résultats se confirment en faveur de Joe Biden, les mouvements d'humeur de la part des soutiens de Trump?
Bah, c'est toute la question. Ça va dépendre d'abord de l'attitude elle-même de Donald Trump. Hein. On en a beaucoup parlé. On a vu hier, il y a eu un incident autour du centre de dépouillement de Philadelphie, qui est au centre de convention de Philadelphie. La police a arrêté deux hommes en armes qui avaient garé leur Hummer juste à côté et qui, visiblement, avaient l'intention de s'attaquer au centre de dépouillement. Donc, vous voyez que les paroles des hommes politiques sont parfois déclencheurs d'actes. L'enquête est encore en cours, oui. Hein, de la police de Philadelphie, mais il y a ce genre d'incident, évidemment, que tout le monde craint. Il y a des armes en circulation aux États-Unis, on peut les porter facilement dans beaucoup d'États. Beaucoup de supporters de Donald Trump en ont. Voilà, donc il y a cette crainte-là d'incident. Il y aura on va pas dire qu'on va vers la guerre civile parce que c'est pas ça qui va arriver, mais de toute façon, c'est sûr qu'on a un pays qui est extrêmement divisé et qui se comprend plus. Moi, j'ai parlé avec mon voisin hier, qui est un démocrate, hein, parce qu'on est à New York, et qui disait, je peux pas me réjouir de la victoire de Joe Biden, parce qu'il pensait qu'il allait évidemment gagner. Il disait, je peux pas me réjouir, c'est quand j'ai 69 millions de mes concitoyens qui votent pour Donald Trump. Je comprends qu'ils aient voté pour lui il y a 4 ans, quand on est désespéré, qu'on a quelqu'un qui nous promet la lune, mais 4 ans après, avec le bilan qu'il a, avec tous les mensonges, avec tout ce qu'il a fait, il dit, je ne les comprends pas. Et il m'a dit un truc qui m'a vraiment frappé. Il disait, voilà, ce pays n'est plus uni, il ne sera peut-être plus jamais. Si jamais il y a un nouveau 11 septembre à New York, le pays ne sera pas derrière New York, il y aura la moitié du pays qui dira que New York aille se faire voir.
Bien, très intéressant, c'est Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Ce sera d'ailleurs le premier chantier, au-delà de l'économie, au-delà de la diplomatie, le premier chantier de Joe Biden, si son élection se confirme. Essayez de retisser le lien entre ces deux Amériques qui aujourd'hui se détestent.
Oui, et la réaction du voisin de Xavier Yon est de ce point de vue-là très intéressante, quand il dit « je ne comprends pas qu'on vote pour Donald Trump ». C'est pas uniquement « je ne suis pas d'accord » ou « je combats politiquement leur ». Donc c'est « je ne comprends pas qu'on puisse voter pour quelqu'un d'autre ». Bon. Et je pense que cette difficulté aujourd'hui des États-Unis, il n'y a pas que les États-Unis, on voit ça aussi, y compris chez nous, c'est l'incapacité d'un camp à accepter l'existence d'un autre camp.
Oui.
Et c'est vrai qu'on juge beaucoup le durcissement du ton de la vie politique américaine à partir des foucades, des excès de Donald Trump, ce qui est incontestablement une évidence. Mais symétriquement, il y a aussi, on assistait à une forme de radicalisation de la gauche américaine, plus sur le plan culturel, hein, faut qu'elle comme tout le. Toute la thématique de la cancel culture qui vient de là et qui est très très forte aux États-Unis, qui s'est traduit aussi sur le plan électoral, parce qu'on parle beaucoup de la présidentielle, mais quand on regarde aussi l'élection pour le Sénat ou pour la Chambre des représentants, on voit que inversement là, les démocrates ont eu des revers, des revers importants. En gros, ils n'ont pas fait le raz-de-marée qu'ils espéraient. Pourquoi ? Parce que souvent, leur candidat était sur des lignes plus dures que n'était Joe Biden au niveau national. Donc, un profil plus centriste, plus central, comme celui de Joe Biden, a été capable de séduire des électorats et devenir majoritaire dans le pays, mais qu'une forme de radicalité démocrate, elle, reste minoritaire dans le pays. Et ce choc des deux radicalités est effectivement un des grands défis auquel il devra s'attaquer en cas d'élection.
Et c'est vrai que vous faisiez tout à l'heure, Ivan Trippenbach, journaliste politique à l'opinion, un parallèle entre ce qui se passe aux États-Unis et puis la montée des populismes partout à travers la planète, notamment évidemment en Europe. On dit souvent que les États-Unis ont 15 ans d'avance sur la vie politique française. Est-ce que ça veut dire que c'est ce qui nous attend dans 10 ans ?
Espérons pas, quand même, parce que Donald Trump, malgré tout, représente quand même c'est l'illustration de cette extrême polarisation et de plusieurs courants complotistes, que ce soit anti-science, on l'a vu dans sa gestion de la crise sanitaire, que ce soit anti-vérité, anti-fait aussi, puisqu'il il a mené en fait, jusqu'au bout, la logique consistant à faire de la politique par le dire. La parole devient politique. Il propose un récit.
Et la parole devient vérité, d'ailleurs.
Exactement. Il propose un récit qui est séduisant, qui correspond en fait aux attentes de toute une partie du pays. Et ça devient de la politique. Ça devient quelque chose de palpable et pour lequel et qui fait se déplacer les gens pour aller voter pour lui.
Un dernier mot, peut-être, Guillaume Tabar. Est-ce que ça fait nos affaires, à nous, Français, cette élection de Joe Biden ?
Ah, écoutez, ça dépend de quel point de vue on se place. Disons que la présidence Trump avait permis à Emmanuel Macron en France et à l'Europe de manière plus globale de reprendre une sorte de leadership du monde occidental, ou que ce soit face à des crises, je pense par exemple face à la Turquie, oui. Face à ce qui se passait aussi au Moyen-Orient. Le retrait américain, qui n'est pas le propre de Trump, hein, déjà c'était Obama qui avait engagé aussi le retrait des États-Unis de la scène internationale, mais qui était accentué forcément sous Trump, ce qui fait que l'Europe avait perdu l'idée que les Américains étaient une sorte de bouclier, notamment sur le plan de la défense, pour l'Europe. Et quelque part, la présidence Trump forçait les Européens à essayer de réfléchir à devenir une puissance, notamment sur le plan
donc
militaire.
Donc là, c'est le retour du multiculturalisme du...
Voilà, alors, Biden, ce n'est pas non plus le retour aux gendarmes du monde. Hein, les démocrates ont aussi une longue tradition d'isolationnisme.
Multilatéralisme, pardon.
Mais c'est vrai quand même que l'argument de dire « avec Trump, on est obligé de s'organiser », cette pression-là négative va moins s'exercer sur l'Europe. Et ça peut faire baisser la garde dans certains pays européens.
Bien, merci à tous les trois. Le débat des grandes voix spéciales US du vendredi. Vous restez avec nous, 18h57. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette édition spéciale avec le journal et les dernières infos Made in US. A tout de suite.
Europe 1.
Europe 1. The American Choice.